l'Église par voilà, la famille Servas et d'autres échanges qu'on a eus. Et maintenant, je découvre vos locaux et votre ministère. C'est très bien. Alors, ce week-end, nous avons pris ce passage en 1 Pierre chapitre 1. Et nous essayons de découvrir un peu plus la puissance de l'Évangile, la puissance de l'Évangile dans nos vies. Nous disons que cet Évangile, comme une semence, eh bien, elle n'est pas simplement utile pour nous introduire à la vie chrétienne, mais il a une puissance tout au long de la vie chrétienne. C'est un peu comme l'ADN, vous savez, l'ADN dans le corps, mais c'est l'ADN qui va diriger la naissance une conception, la naissance d'un bébé, mais l'ADN n'a pas fini son travail là. L'ADN va diriger toute notre croissance et permettre au corps de fonctionner. Et c'est ce que nous disons ce week-end, que l'Évangile est comme cet ADN. Et pour toute étape de la vie chrétienne, on veut que nos vies soient alignées sur l'Évangile. L'Évangile puissance 4, comme ce jeu où il faut aligner les pièces pour gagner. Mais de la même manière, nous voulons placer l'Évangile tout au long de notre vie pour qu'il y ait une vie alignée sur l'Évangile. Alors ce matin, pour notre première partie, première session, on va reprendre 1 Pierre chapitre 1. Et puis après, je vais compléter par une lecture en Galates. Donc 1 Pierre chapitre 1, nous allons lire à partir du verset 22. Et déborder un peu dans le chapitre 2. 1 Pierre chapitre 1, 22. Ayant purifié vos âmes en obéissant à la vérité, pour avoir un amour fraternel sincère, aimez-vous ardemment les uns les autres, de tout votre cœur, puisque vous avez été régénérés, non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. Car toute chair est comme l'herbe, et toute sa gloire comme la fleur de l'herbe. L'herbe sèche et la fleur tombe, mais la parole du Seigneur demeure éternellement. Et cette parole est celle qui vous a été annoncée par l'Évangile. Rejetant donc toute méchanceté et toute ruse, la dissimulation, l'envie et toute médisance, désirez comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel et pur, afin que par lui vous croissiez pour le salut, si vous avez goûté que le Seigneur est bon. Approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu, et vous-même comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. Et puis j'aimerais vous lire maintenant un passage dans l'épître aux Galates. C'est intéressant de penser que et l'épître aux Galates et l'épître de Pierre sont finalement écrits à des Galates, puisque Pierre, les destinataires de sa lettre, c'est des chrétiens qui sont en Galatie, dans le pont, la Cappadoce, la Galatie. Donc voici une. Voilà, Paul avait écrit une lettre aux Galates et Pierre avait écrit une autre aux Galates. Et maintenant, j'aimerais lire donc Galates chapitre 2, versets 11 à 16. Ou même à partir du verset 8, Galates 2, 8. Celui qui a fait de Pierre l'apôtre des circoncis a aussi fait de moi l'apôtre des païens, et ont reconnu la grâce qui m'avait été accordée. Jacques, Céphas, Pierre, et Jean, qui sont regardés comme des colonnes, me donnèrent à moi et à Barnabas la main d'association, afin que nous allions nous vers les païens et eux vers les circoncis. Ils nous recommandèrent seulement de nous souvenir des pauvres, ce que j'ai eu bien soin de faire. Mais lorsque Céphas vint à Antioche, je lui résistai en face parce qu'il était répréhensible. En effet, avant l'arrivée de quelques personnages de l'entourage de Jacques, il mangeait avec des païens, et quand elles furent venues, il s'esquiva et se tint à l'écart par crainte des circoncis. Avec lui, les autres juifs usèrent aussi de dissimulation, en sorte que Barnabas même fut entraîné par leur hypocrisie. Voyant qu'il ne marchait pas droit, selon la vérité de l'Évangile, je dis à Céphas en présence de tous, si toi qui es juif, tu vis à la manière des païens et non à la manière des juifs, Pourquoi forces-tu les païens à judaïser? Nous, nous sommes juifs de naissance, non pécheurs d'entre les païens. Néanmoins, sachant que ce n'est pas par les œuvres de la loi que l'homme est justifié, mais par la foi en Jésus-Christ, nous aussi, nous avons cru en Jésus afin d'être justifiés par la foi en Christ et non par les œuvres de la loi, parce que personne ne sera justifié par les œuvres de la loi. Alors ce matin, le sujet serait comment l'Évangile nous unit. Nous avons vu le premier soir comment l'Évangile nous convertit, hier soir comment l'Évangile nous sanctifie, et ce matin, premier volet, comment l'Évangile nous unit dans l'Église. Parce que vous voyez, là, pour reprendre un Pierre, l'appel de Pierre dans les versets que nous avons lus, c'est cet appel pour l'amour fraternel dans l'Église, l'unité dans l'Église, les pierres vivantes qui viennent ensemble créer une maison agréable à Dieu. Et cet appel à cet amour fraternel sincère est d'autant plus fort quand vous pensez justement au destinataire de cette lettre. Il adresse cette lettre, un Pierre, à ceux qui sont étrangers et dispersés dans le pont, la Galatie, la Cappadoce, l'Asie et la Bithynie. Et comme nous avons vu en Galate, Pierre, il était cet apôtre consacré notamment pour les Juifs, les circoncis, mais il écrit cette lettre dans des régions, justement, où il y avait aussi des non-Juifs. Il écrit dans des régions qui sont loin de Jérusalem, ceux qui sont étrangers, dispersés dans la pont, la Cappadoce, l'Asie, la Bithynie, dans la Galatie. Donc, il écrit à ce nouveau peuple de Dieu qui va être composé de Juifs et de non-juifs, ce nouveau temple. Et c'est parmi ceux-là que Pierre exhorte d'avoir un amour fraternel sincère, ardent de tout cœur, en rejetant notamment la méchanceté, la dissimulation, l'envie et toute médisance. Dans une église qui va être composée avec une grande diversité, c'est ceux-là qui veulent qu'ils exercent un amour fraternel sincère. Donc cet appel à l'amour est fort puisqu'il s'adresse à des endroits où forcément il y avoir un mélange de cultures, mélange de diversité. Et je dis que cet appel est d'autant plus fascinant qu'il vient de Pierre. Pierre, et nous avons lu cette histoire en Galates, comme Paul a écrit, lui, à des Galates, il a dû mentionner un problème de dissimulation qui venait de Pierre lui-même. Et justement là, il y avait un manque d'amour fraternel, il y avait un manque d'unité. C'est la chose même que Pierre demande de rejeter la dissimulation, l'hypocrisie, exercer un amour fraternel sincère, ardent. Et c'est ce qui a manqué un peu à Antioche ce jour-là. Et ce passage en Galates est très intéressant. Vous avez Pierre et Barnabas. Qui ont été impliqués dans une situation difficile que Paul a dû reprendre à Antioche. Un jour, il y avait un repas fraternel comme vous avez aussi l'habitude de faire. Mais au milieu de ce repas fraternel, il y avait un problème d'unité, une crise d'unité dans l'Église à cause de cette diversité, on va dire, religio, ethno, socio, culturelle. À Antioche, Paul est obligé de dénoncer l'attitude de Pierre. Et ce qui est à remarquer ce matin très fort, c'est ce qu'il dit en Galates 2:14. Il y avait un manque d'unité, un manque d'amour fraternel. Et ce que Paul dit, c'est qu'il dit, verset 14, « Voyant qu'il ne marchait pas droit selon la vérité de l'Évangile. » Ça, c'est très fort. Et ce manque d'unité, manque d'amour fraternel, ce problème de dissimulation, eh bien, c'est parce qu'il ne marchait pas droit selon la vérité de l'Évangile. Ça, c'est fort parce que Pierre, vous avez Pierre, cet apôtre envers les circoncis, lui qui a prêché l'Évangile pendant des années, lui qui avait déjà vécu le Pentecôte, qui avait le Saint-Esprit, tout ça. Donc, même après Pentecôte, même après chez Corneille, même après tout ça, vous avez Pierre qui a besoin de mieux comprendre l'Évangile pour un repas fraternel, Donc, il a dû aller plus profond dans l'évangile pour comprendre qu'il y avait un problème, qu'il ne marchait pas droit selon la vérité de l'évangile. Et ça, c'est tellement vrai pour nos vies aussi, mais tout au long de notre vie d'église, quand il y a des problèmes, notamment d'amour fraternel, d'unité, quel est le problème finalement? Le problème, c'est qu'on ne marche pas droit selon l'évangile. Il y a encore des choses à apprendre, à découvrir dans l'évangile, dans ce grand message de l'évangile. Alors, j'aimerais vous dire ce matin que la clé pour l'unité, c'est l'évangile. L'évangile a une puissance pour nous sauver, mais a aussi une puissance pour nous unir dans l'église. Et c'est justement ce que Pierre dit. Heureusement, il semble avoir compris, avoir progressé dans la compréhension de l'évangile, parce qu'il dit à ses Galates, en 1 Pierre, verset 22, il dit « Ayant purifié vos âmes en obéissant à la vérité, cette même vérité de l'évangile que lui-même il n'a pas su toujours appliquer, mais il dit « Ayant purifié vos âmes en obéissant à la vérité pour avoir un amour fraternel sincère. » C'est cette vérité de l'évangile qui nous donne un amour fraternel sincère, qui nous permet d'aimer ardemment les uns les autres. Donc, c'est ce que nous allons creuser ce matin, comment l'évangile produit et moteur d'unité dans l'Église. Alors, tout d'abord, nous allons voir le défi de l'unité, ensuite la difficulté, et enfin la vérité de l'évangile qui peut le produire. Le défi, la difficulté et la vérité. Le défi, quand on parle de l'unité, le défi, me semble, c'est réussir l'unité dans la diversité. C'est là, c'est ça le défi, c'est ça le point qui est souvent difficile, c'est qu'il y a une diversité dans l'Église et c'est dans cette diversité qu'il faut réussir l'unité. Jésus un jour, il a dit, aimer ses amis, c'est pas si difficile. Aimer ses amis, même les païens peuvent le faire. Donc, s'entendre avec ceux qui sont exactement comme nous, c'est pas toujours évident. Mais Jésus dit, il n'y a rien de trop extraordinaire d'aimer ceux qui sont pareils, ceux qui sont nos amis, ceux qui partagent exactement les mêmes choses que nous. Le défi, c'est de s'entendre avec ceux qui sont différents, de s'entendre dans une grande diversité. L'unité dans la diversité. Et vous savez, cette question revient dans tous les domaines. C'est une question qui travaille en politique ou bien dans les sciences, dans les philosophies, tout ça. L'unité dans la diversité. Parce que c'est vrai, on peut constater tant de diversité dans notre monde. C'est une beauté de notre monde, c'est qu'il y a tant de diversité partout. Tant de diversité dans le monde, mais ça reste néanmoins un univers. Univers, c'est que ça tient ensemble, uni. Donc, il y a un univers, mais avec beaucoup de diversité. Comment ça se tient tous ensemble? C'est la question pour beaucoup. Comment faire tenir ensemble des choses qui sont tellement diverses, mais on veut quand même un équilibre, une stabilité, une unité, un univers? Cette question a tellement occupé les penseurs, l'unité dans la diversité, que cela a donné le principe de l'université. L'université, c'est là où on étudie, on va étudier plein de phénomènes divers, mais on veut dégager des principes qui les tiennent ensemble dans toutes sortes de métiers, dans toutes sortes de domaines. L'université, c'est étudier ce qui unit différents principes divers pour tenir dans une pensée cohérente, dans un corps... De théories et d'idées pour le tenir tous ensemble. L'unité dans la diversité. Et je dirais que de nos jours, dans notre société actuelle, c'est la question majeure, la question sociologique majeure qui nous préoccupe. La diversité, on constate une grande diversité dans notre société et on aspire à l'unité, la fraternité. Et plus que jamais, notre société est très sensible à cette question de diversité, unité, parce qu'on constate que le manque d'unité fragilise la société, mais la diversité semble entraver à l'unité. Regardez les guerres, les émeutes, les affrontements politiques, même, on sait que le manque d'unité peut vraiment fragiliser ou ralentir la société, mais on ne sait pas quoi faire avec toute cette diversité. Et la société a beaucoup de mal à gérer les deux. Comment avoir l'unité sans sacrifier la diversité? Comment avoir la diversité sans sacrifier l'unité? Alors les solutions que propose la société ne sont pas très réussites, il faut dire. Une idée, c'est voilà, chacun reste dans son coin. On va faire des groupes unis, mais voilà, là, puisque quand on met la diversité ensemble, ça explose. Eh bien, chacun reste dans son quartier, dans son coin, dans ses positions. Et on se tire dessus. Ça, c'est une solution. Chacun reste dans son coin et quand on doit se mélanger, eh bien, on explose. Une autre solution que propose la société, c'est voilà, quand on met la diversité ensemble, ça crée des problèmes. Donc, tout le monde va se taire. Tout le monde va, quand on vient dans les lieux publics, eh bien, on laisse nos diversités derrière nous. Et tout le monde doit adopter un peu la même pensée, la même. Et comme ça, peut-être on va essayer de se garder tranquille. Et c'est un peu, quand on parle de laïcité aujourd'hui, c'est justement ça, c'est une tentative à l'unité. Mais autrefois, laïcité, ça voulait dire neutralité dans la diversité. Aujourd'hui, laïcité veut dire on impose la religion de l'État à tout le monde. C'est-à-dire, la religion de l'État aujourd'hui, c'est l'humanisme séculier. Donc, quand on... Voilà, pour vivre la vie de cité, la vie ensemble, tout le monde doit adopter la même pensée. C'est la seule manière qu'on arrive à tenir l'unité de nos jours. Mais l'Église du Nouveau Testament, c'est ça la puissance, c'est ça le miracle, elle est appelée à réussir ce défi, à relever ce défi d'être unie dans la diversité. Parce que justement, Dieu n'a jamais voulu une Église monotone, une église, une seule couleur, une seule tonalité. Il a voulu une église avec une grande diversité. Et ça, c'est la nouveauté depuis Pentecôte, tout ça. L'église va être composée, déjà au niveau culturel, composée de toute culture. Là, donc ici, pour les Galates ou pour Pierre, tout ça, il y a maintenant une église composée de juifs et de non-juifs. Et ça, c'est une des plus grandes diversités qui soit. Mais cette diversité-là, ça vient parce que pour la première fois, le salut, c'est un salut universel offert à tous, sans attache culturelle. C'est ça déjà très fort à constater. Contrairement aux autres religions, l'Évangile ne cherche pas à anéantir la culture ou enlever les personnes de leur culture. Le christianisme est la seule religion qui n'est pas lié ou associé à une culture ou à un coin du monde, une région du monde. Vous regardez l'islam reste très, très arabe, finalement, très lié même aux régions arabes. Le bouddhisme, ça reste très oriental, on trouve toujours le fief en Orient. Mais le christianisme, on ne peut pas l'associer à telle région du monde ou telle culture. La foi chrétienne a commencé juive à Jérusalem, mais après elle a été mutée, on va dire, en Afrique du Nord avec Augustin, tout ça, c'est la Tunisie de nos jours. Après, mutée en Europe, on pense aux réformateurs, Genève et tout ça, Calvin, donc très européen, et de là rayonner dans tout le monde. Après, il va partir dans les régions anglo-saxonnes et puis. Amérique du Nord, où on associe peut-être les évangéliques ou les protestants à telle région du monde, mais aujourd'hui, on peut même pas dire que c'est l'Amérique du Nord, où maintenant on voit que c'est en Asie, en Amérique latine, en Afrique, il y a même les plus grands pourcentages de chrétiens. Donc vous voyez, c'est ça qui est la force de l'Évangile, et elle n'a pas d'attache culturelle, elle dit pas que c'est telle culture est mieux, elle n'oblige pas les gens à se convertir à une culture pour exprimer leur foi. Donc, il y a une place dans l'Église de Jésus-Christ pour une grande diversité. Mais pensez à la situation de l'époque ici avec les juifs et non-juifs. Les juifs, ils étaient habitués à des siècles de tradition, des siècles de cette culture qui dirigeait quasiment toute leur vie quotidienne. Et leur culture, leur principe, leur arrière-plan religieux était même conçu pour les pour les séparer d'autres peuples, avec cette histoire de circoncision, ces histoires de règles alimentaires. Et maintenant, ils sont dans la même église avec d'autres qui n'ont pas eu cet arrière-plan, et ils sont appelés à vivre des repas fraternels, des agapes. Entre autres, alors, qu'est-ce qu'on va faire? Comment on va faire avec un repas fraternel? Est-ce qu'il faut faire une table avec que des légumes et des tables avec la viande, ou une table des circoncis, une table des non-circoncis? Vous voyez le problème, ça va créer un schisme dans l'Église, et c'est parce que ce n'est pas ce que Dieu veut. Ce qui est aussi fort, c'est que pour la première fois depuis l'Empire romain, on se retrouve justement un peu dans ce même contexte. On se retrouve justement avec une grande diversité dans nos villes et dans notre pays. Il y a 100 ans, je pense, la population des villes françaises était plus homogène. Ça ne voulait pas dire que l'unité dans l'Église était facile. Mais plus que jamais, on vit une diversité. Bien sûr, la diversité culturelle n'est juste un exemple. Il y a toutes sortes d'autres sources de diversité. Il y a diversité de position, de classe sociale. Il y a diversité dans l'Église de maturité, suite à un arrière-plan religieux ou chrétien ou pas. Il va avoir une diversité d'opinions, de scrupules, des consciences de différents chrétiens qui ne sont pas au même stade, au même niveau. Et tout ça, on trouve dans le Nouveau Testament, cette grande diversité qu'il faut tenir ensemble dans la même Église. Donc c'est ça le défi, à nous de relever. Dieu veut que l'Église soit une université. Justement, l'Église, c'est son école pour chacun de nous, pour apprendre à aimer l'autre, même différent que nous. Donc l'Église, c'est ce que Dieu veut, une université, un lieu où on réussit l'unité dans la diversité. Avec un amour fraternel qui est, j'aime bien, il dit, c'est sincère, c'est profond, c'est ardent, c'est de tout cœur. C'est-à-dire, dans le monde, oui, on peut peut-être s'entendre avec quelqu'un de différent, mais il n'y a pas forcément cet amour fraternel sincère, de tout cœur. Et c'est ce qu'il veut ici, malgré beaucoup de diversité. Le défi, la difficulté. Constatant que c'est pas évident. Et il y a une grande difficulté pour le monde, on pourrait même dire que c'est une impossibilité. C'est une impossibilité à réussir cette unité. Regardez notre monde. Il y a une force très puissante dans notre monde, notre société. C'est le désir d'appartenir à un clan, un groupe, une tribu, une partie. Alors cela peut être sportif, le PSG, l'OM, tout ça. Ça peut être politique. UMP, PS. Cela peut être ethnique, juif, arabe, français, américain, blanc, noir. Hein. Cela peut être social, la bourgeoisie, la classe ouvrière, les riches, les pauvres. Partout où vous voyez, vous regardez, finalement, les gens s'attachent à une appartenance, à un clan. Et même les psychologues le constatent. Vous avez peut-être étudié cette fameuse pyramide de Maslow, où il dit les besoins fondamentaux de l'homme, et il place ça parmi un des besoins, c'est ce désir d'appartenir, de faire partie de quelque chose. Et quand on lit Galates et le Nouveau Testament, on commence à comprendre un peu d'où vient ce besoin d'appartenance. Parce que finalement, ce n'est pas simplement ceux qui se ressemblent s'assemblent. S'il n'y avait que ça, ce serait pas mal. Mais s'il n'y avait que ça, il n'y aura pas les guerres et les affrontements et les méchancetés, les envies, les dissimulations. Non, la Bible va dire qu'il y a quelque chose de plus profond qui est en train de se passer dans le cœur humain, dans ses appartenances, ses parties, ses clans. Et on le voit surtout dans cette lettre aux Galates. Parce que ce jour-là, au repas fraternel, ils étaient incapables de s'asseoir autour de la même table et de manger ensemble. Et Paul comprend que ce n'est pas juste une question de nourriture. Moi, je n'aime pas la nourriture de ce qu'ils mangent, et voilà, donc il fallait se séparer. Non, Paul voit que c'est un problème beaucoup plus profond dans le cœur humain. Selon lui, c'est une histoire de justification, de se justifier. Alors, comment ça fonctionne? Je vais vous montrer. Comment ça fonctionne dans le cœur humain? C'est qu'il y a une diversité, et dès qu'on constate une différence avec l'autre, il n'en faut pas beaucoup pour qu'un esprit de parti s'installe, et on commence à réfléchir en disant, voilà, il y a nous, et puis il y a les autres. Il y a nous et les autres. Et peut-être, petit à petit, on arrive à se convaincre que nous, on est bien, et les autres, eh bien, ils sont moins bien. Ou bien ils sont carrément nuls. Et petit à petit, tout ce qui ne font pas partie de notre groupe, alors on va les imputer des motivations un peu louches. Et on va dire, ben, quand même, ils sont peut-être inculques ou ignorants ou bêtes ou carrément méchants. Parce qu'ils ne sont pas comme nous. Et à force, on arrive à cultiver justement ce que Pierre demande de rejeter, la médisance, l'envie, la dissimulation, la méchanceté, la ruse, parce qu'on dit, voilà, ça c'est les autres. Mais voilà l'astuce du cœur humain. L'astuce, c'est qu'en traitant les autres ainsi, cela nous met, nous, en bonne lumière. Cette appartenance m'offre le sentiment d'être finalement meilleur que les autres. Puisque je fais partie de telle équipe, ou telle partie, ou tel groupe, forcément, je suis meilleur que celui en face de moi qui fait partie de l'équipe adverse. Et donc, cela nous permet de dire, voilà, c'est nous les meilleurs. C'est nous les meilleurs, les autres sont moins bien. Mais c'est quoi cette pensée dans le cœur humain? Eh bien, c'est le désir de se justifier. Quand on veut se sentir meilleur que les autres, c'est parce qu'on veut une approbation et on veut se sentir meilleur que les autres, et Paul appelle ça un salut par les œuvres. Le cœur humain, il veut se sauver par ses œuvres, ses mérites, le fait qu'il est meilleur que les autres, et donc il se compare aux autres, et ce besoin d'appartenance dévoile justement un projet de salut par les œuvres. Parce que voilà, on arrive avec nos partis, nos divisions, nos clans, on arrive à finalement à diaboliser l'autre et à sanctifier soi-même, et c'est exactement ce que le cœur aime faire. Et je dirais, c'est ça, c'était un des aspects importants de la circoncision. Vous savez que cette lettre aux Galates, c'est un peu la question qui revient. Et Paul va dénoncer un salut par les œuvres. Mais justement, la circoncision, qu'est-ce qu'elle offrait aux Juifs? Eh bien, pourquoi un tel attachement à ce signe? Ben justement, ça permettait de marquer cette appartenance, de dire voilà, de fermer le cercle, de dire voilà, ça c'est nous, le cercle, et puis les autres. Il y a nous, bien, et les autres, moins bien. Et c'était une manière de dessiner une barrière qui finalement permettait de se justifier. Et même à l'époque, c'est Dieu lui-même qui avait instauré ce signe, ce geste de circoncision, pour préserver son peuple des autres, et donc pour marquer effectivement une certaine barrière. Et c'est exactement la même raison pour les lois alimentaires, les règles alimentaires. C'était pour préserver son peuple au milieu des autres peuples païens, pour leur préserver leur identité en tant que peuple de Dieu, les mettre à part. Mais à force, dans les siècles des pensées, les Juifs, qu'est-ce qu'ils ont fait de cette diversité, cette distinction? Eh bien, ils se voyaient simplement des gens de bien parce qu'ils étaient à part. Nous sommes les circoncis. Les autres, c'est les incirconcis, c'est les infidèles. Nous avons Abraham pour père, et donc, puisqu'on est à part, on est des gens de bien. Nous sommes meilleurs que les autres parce que nous ne mangeons pas de porc. Mais vous voyez que c'est, si on réfléchit juste comme ça, c'est qu'on se donne un critère arbitraire. On s'est dit, nous l'avons, les autres ne l'ont pas, alors on est meilleur. Ça, la Bible appelle ça un salut par les œuvres, un salut par ses propres mérites. Et cette démarche, ils sont loin d'être les seuls à la faire. C'est comme ça que fonctionnent finalement toutes les ethnies, toutes les parties, tous les groupes du monde. Et c'est ça le problème de notre monde. C'est pour ça qu'on se crie dessus, on se fait des guerres, parce que le cœur humain a un problème avec les œuvres. J'aime bien cette histoire, hein, quand je vous ai raconté une histoire d'enfant, hein, souvent je m'inspire des histoires pour enfants, parce qu'ils dégagent souvent une leçon pertinente, mais il y a une histoire que je lis à mes enfants. Il s'agit d'une espèce d'oiseau fictive qui vit en communauté. Et ces oiseaux-là, ils se ressemblent tous, sauf que certains, ils ont une étoile sur le ventre, et d'autres n'ont pas une étoile sur le ventre. Alors ceux qui ont une étoile sur le ventre, ils se savent meilleurs, ils se voient comme meilleurs. Et puisqu'ils ont une étoile sur le ventre, c'est eux qui ont les meilleures places à la plage, ils ont le droit d'aller à la plage, ils font les fêtes ensemble, ils ont droit à les fêtes, et les autres, eh bien, ils ne peuvent pas venir parce qu'ils n'ont pas l'étoile sur le ventre. Et c'est quand ils vivent, les uns méprisent les autres et les autres convoitent l'étoile. Et un jour débarque un marchand forain et il tire de son sac et de sa camionnette une grosse machine capable de graver une étoile sur le ventre pour la modique somme de 3 francs. Alors les 100 étoiles sont ravis. Ils y passent tout pour se faire graver une étoile sur le ventre. Maintenant, tout le monde a une étoile. Mais quand les autres voient ça, ils sont très embêtés parce qu'ils se disent, mais comment est-ce qu'on va faire maintenant pour discriminer puisqu'on se rassemble tous, mais c'est quand même nous les meilleurs, après tout. Alors le forain, il est assez malin. Il vient à leur secours, il dit, moi, ma machine, je le mets à l'envers et je peux enlever l'étoile pour la modique somme de 3 francs. Alors, ils sont ravis, parce qu'ils se font enlever l'étoile, parce que maintenant, c'est les 100 étoiles qui sont les meilleures, et ceux avec les étoiles sont moins bien. Donc, vous voyez un peu la suite, toute la journée, le forain offre ses services. Alors, ça devient la folie, parce que les uns se mettent l'étoile, les autres s'enlèvent l'étoile, et ils font tous la queue pour enlever, remettre, toujours dans cette recherche d'être meilleur, finalement, que l'autre. Enfin, arrive le moment où ils n'ont plus d'argent. Et tellement il y a micmac, tellement de passages que maintenant personne ne sait plus qui est qui. Et au fond, ils décident de vivre en harmonie, étoile ou sans étoile. Alors, est-ce que c'est juste une histoire d'enfant? J'ai appris par la suite que l'OTAN a demandé la permission, a obtenu les droits de l'auteur, et ils ont distribué cette histoire en Bosnie et Herzégovine, là. Après la guerre et les problèmes entre Serbes, Croates et Bosniques, tellement c'est notre histoire, c'est même européen. Finalement, vous connaissez l'histoire d'Europe des dernières 50, des dernières 100 ans. Eh bien, l'histoire d'étoiles affichées sur quelqu'un, voilà, on n'est pas loin de la vérité, tellement l'homme fonctionne dans cette pensée. Nous, les chrétiens, dans l'Église, est-ce que nous sommes à l'abri? Eh bien, pas forcément, c'est ça. Là. C'est aussi une difficulté pour nous. Tellement le cœur veut s'accrocher à quelque chose pour se sentir bien. Le cœur, il arrive à se donner une assurance, un sentiment de supériorité, un sentiment d'être bien. Lorsqu'il s'attache à une appartenance, ça peut être politique, ça peut être ethnique. Mais vous savez, là où c'est peut-être le plus puissant, c'est quand ça devient religieux. Quand ça devient, on va dire, dénominational, quand ça devient un courant, même un courant évangélique, on s'attache, le cœur s'attache et dire, voilà, je suis quelqu'un de bien parce que j'ai ça, j'ai telle appartenance. Les circoncis, vous savez, ils débarquaient chez les Galates ou ailleurs, et les circoncis, ils pouvaient dire, voilà, nous, on est plus biblique que les autres parce que nous, on a ça. Ils se sont fixés ce critère. Voilà, nous on l'a, les autres ne l'ont pas, donc même si les autres peut-être, d'accord, ils sont peut-être ils sont chrétiens, peut-être ils sont nos frères en Christ, mais on est quand même plus biblique, on est plus avancé, on est plus aimé, on est plus juste qu'eux. Vous voyez, le cœur humain veut toujours s'accrocher à quelque chose pour se valoriser, pour se justifier, pour se rassurer, et souvent c'est même son étiquette religieuse. Et quelque part, c'est ce qu'il dit à son cœur. Voilà pourquoi tu es bien, voilà pourquoi tu es juste, voilà pourquoi Dieu t'aime, voilà pourquoi tu es biblique. C'est parce que tu appartiens à tel groupe, tel milieu, telle diversité. Ça, c'est le cœur humain. C'est ce qui rend l'unité tellement difficile. C'est ce qui est source de toutes sortes de divisions, de schismes, de guerres. Donc, on a vu le défi, réussir l'unité dans la diversité. On a vu la difficulté que finalement, le cœur humain, il veut se sauver par les œuvres. Et ces appartenances reflètent cela. Et maintenant, on va voir la vérité de l'Évangile. Comme vous savez, la vérité de l'Évangile peut vraiment purifier nos âmes en ce problème. Et la solution pour Pierre, comme j'ai dit, lorsqu'il s'esquiva, il se tint à l'écart, il ne voulait pas cette unité, cet amour fraternel. La solution pour lui, c'était de revenir à la vérité de l'Évangile. Paul a dit, voyant qu'il ne marchait pas droit selon la vérité de l'Évangile, je lui ai repris, et ce qu'il lui a dit, c'était en versets 14, 15 et 16, il dit, néanmoins, sachant que ce n'est pas par les œuvres de la loi que l'homme est justifié, mais par la foi en Jésus-Christ, nous aussi nous avons cru en Jésus afin d'être justifiés par la foi en Christ et non par les œuvres de la loi. Vous voyez ce que l'Évangile fait? Vous voyez comment il parle à nos diversités. Enfin, l'Évangile met fin à ce besoin fondamental, ce besoin terrible de se valoriser, de se sentir meilleur que les autres, de se démarquer des autres. Et l'Évangile, il arrive à désamorcer ce mécanisme du cœur humain. Parce que le chrétien peut dire non, c'est pas une appartenance, c'est pas une étiquette qui me valorise, qui fait que je suis quelqu'un de bien. C'est la mort et la résurrection de Jésus-Christ à ma place. C'est ça qui me justifie. C'est ça qui me fait réussir dans la vie. C'est ça qui fait que je suis quelqu'un de bien. C'est son œuvre, c'est lui. Et ça change vraiment la manière que l'on voit l'autre. Même très différent, même très divers. S'il est différent, même très différent culturellement ou socialement, tout ça, économiquement, même s'il est différent, eh bien, il est couvert de la même justice. Dieu l'accueille sur la même base que moi. Dieu ne l'accueille pas sur une base ethnique, une base sociale, une base d'arrière-plan, je ne sais pas, intelligence, éducation. Non, c'est tous la même base, notamment l'œuvre de Jésus-Christ, l'Évangile. Et ça, mes amis, c'est une vérité qu'il faut constamment marteler dans nos têtes et dans nos cœurs. La preuve, c'est que Pierre, après des années d'apostolat, de prédication de l'Évangile, il avait besoin de revoir cette vérité pour réussir les agapes. Parce que nous, le cœur humain, c'est un peu l'hérésie galate, ils avaient accepté le salut, mais le cœur humain veut toujours rebasculer dans ce salut par les œuvres, dans quelque chose en nous, quelque chose qu'on peut trouver en nous, qui on met en avant pour montrer nos mérites, pour montrer nos atouts, pour montrer que finalement on n'est pas si mal que ça. Alors nous, nous les chrétiens même, on revient souvent à regarder l'étoile sur notre ventre. Alors c'est à vous d'imaginer ce que cela peut représenter dans telle église ou tel milieu, mais souvent nous-mêmes on repère les étoiles sur le ventre ou ceux qui sont avec étoiles ou sans étoiles, on dit « Ah, ça !» Et on a du mal à réussir l'unité. Mais l'Évangile dit que ce qu'il faut constamment revoir, c'est que Dieu, il ne regarde pas l'étoile sur le ventre. Lui, il regarde l'étoile brillante du matin, c'est Jésus-Christ, qui, dans toute sa splendeur, dans toute sa beauté, dans toute sa perfection, lui qui a tout fait, c'est à lui que Dieu regarde, à notre place, et il nous voit tous pareils, il nous voit tous pareils en Jésus-Christ. La petite étoile sur notre ventre ne vaut plus rien quand on est inondé de cette perfection, cette justice, cette lumière en Jésus-Christ. Et puis l'Évangile, elle entre dans le cœur et elle commence à nous faire réfléchir autrement quand on voit un autre groupe, un autre clan, des personnes différentes que nous, une autre culture. Ce que on constate l'histoire de l'Évangile, c'est que il y avait Jésus-Christ et lui, il faisait partie du meilleur groupe, il faisait partie de la meilleure équipe, il prenait part aux meilleurs agapes, on va dire, dans l'éternité, il faisait partie de la Trinité. Quoi de mieux, quel groupe, ça c'est le meilleur groupe qui soit, le meilleur clan qui soit. Ils étaient tranquilles, mais au lieu de se tenir à l'écart, au lieu de s'esquiver en quelque sorte, comme a fait ces gens, qu'est-ce qu'il a fait? Il est venu vers l'autre, il est venu vers l'étranger, il est venu vers nous les hommes qui étaient tellement différents que lui. Et il est venu pour se mettre avec nous et pour nous aimer et pour nous inviter, nous accueillir dans son groupe. Et ça, c'est très fort. Au cœur de l'évangile, vous avez un homme qui a donné sa vie pour ceux qui étaient très différents que lui, même plus que différents, qui étaient ses ennemis. Et quand on voit la difficulté de l'unité, voilà, c'est parce qu'on conçoit les autres comme nos adversaires, comme nos ennemis, et on ne peut pas réussir cette unité. Mais Jésus, qu'est-ce qu'il il donne sa vie. Il aime ceux qui sont très différents que lui. Quand nous, comme nous sommes face à quelqu'un de très différent, on ne peut pas s'empêcher de soupçonner quelque chose de bizarre, de louche, de méchant. Chez l'autre, on a tendance d'imputer le pire. Les préjugés du cœur humain, ils soupçonnent le pire chez l'autre et ils s'accordent le meilleur. Mais Jésus, c'est ça qui est fort, lui, il connaissait le fond des cœurs. Il savait qu'il n'avait pas besoin de soupçonner le mal. Il connaissait le mal en nous. Mais au lieu de. Il aurait pu nous l'imputer, mais au lieu de nous l'imputer à lui, il se l'est imputé ce mal et nous impute sa justice. C'est ça l'évangile. Il nous accorde, il nous traite comme si on était juste comme lui, grâce à la croix. Et ça devient tout un schéma, tout un modèle pour l'Église quand on voit l'autre qui est différent, qui semble être même un adversaire, un ennemi. On peut l'aimer, parce que Jésus, lui, il n'a pas aimé juste ses amis, il a aimé ses ennemis. Et ça, c'est ce que vous allez pouvoir vivre dans l'Église. Et Dieu, il veut, par l'unité dans l'Église, ce qui est miraculeux, qui est puissant, Dieu veut prouver au monde la puissance de l'Évangile. Dieu veut prouver au monde que cet Évangile a une puissance que nul autre, qu'on ne trouvera nulle part ailleurs. L'Évangile réussit à faire ce qu'on n'arrive pas à faire dans la société, dans le monde, c'est unir les gens qui sont très différents et les mettre ensemble dans un corps, dans une famille, où il y aura un amour fraternel, sincère, ardent, de tout cœur, pas superficiel, pas juste bonjour, mais un amour fraternel, sincère, profond. Ça, c'est la puissance de l'Évangile. Il n'y a que l'Évangile qui peut faire ça. Et l'Évangile le fait ici et dans les églises. Et on peut le vivre déjà maintenant. De toute façon, ce sera notre destinée éternelle d'être réunis autour du trône de Jésus-Christ dans une grande diversité, des gens de partout, de toutes sortes d'arrière-plans. Notre destinée éternelle, c'est de passer l'éternité ensemble. Alors autant commencer maintenant à le vivre. Voilà, que Dieu vous bénisse et que l'Évangile puisse être puissant ici dans cette Église pour créer et maintenir cette unité. Amen.